Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Que par la vie, et tout ce qui vit se nourrit.
Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger.
La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Sa vie fut banale, son héritage est flamboyant. Nous allons ce matin parler de Jean-Anthelme Briat-Savarin, qui fut et qui demeure un guide admirable vers les plaisirs infinis de la bonne chère. Son livre intitulé « Physiologie du goût », qu'il publia à compte d'auteur à l'extrême hiver de sa vie en 1825, a connu depuis lors une fortune éclatante. Il est traduit aujourd'hui dans les principales langues de la planète et son influence a été grande dans toute la dimension des plaisirs de la table, qu'il considéra comme constituant un art du premier rang. Lorsque l'UNESCO décida d'inscrire le repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010, nombreux furent ceux qui y virent un hommage à la figure lumineuse de Briat-Savarin. J'ai hésité cette semaine à demander à Christine O'Krent de troquer son horaire contre le mien afin que je puisse me rapprocher du prochain repas dans le cas où, comme je l'espère, mon invité et moi, nous vous aurons efficacement aiguisé l'appétit. Jean-Robert Pitt est professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne, membre de l'Institut et président de la Société de géographie. Géographe, oui, mais ayant confirmé tout au long de son œuvre que sa discipline serait superficielle sans l'histoire. L'inverse étant d'ailleurs vrai. Quant à la gastronomie, il nous convainc qu'elle serait plus terne sans Briat-Savarin, auquel il consacre une biographie toute tissée de gratitude. Il montre en ce maître non seulement l'éducateur du goût, mais aussi un bon écrivain au charme fantasque. Il éclaire en même temps un moment d'histoire sociale, celui où il apparut que la bonne cuisine n'était pas l'apanage de la noblesse et que la bourgeoisie montante voulait et pouvait s'en saisir non seulement comme d'une satisfaction hédoniste, mais aussi comme d'un signe extérieur de prestige.
Éprouvette gastronomique, première série. Revenu présumé, 5000 francs. Médiocrité. Une forte rouelle de veau piquée de gros lard et cuite dans son jus. Un dindon de ferme farci de marrons de Lyon. Des œufs à la neige. Un plat de choucroute hérissé de saucisses et couronné de lard fumé de Strasbourg. Expression. Peste, voilà qui a bonne mine. Allons, il faut y faire honneur. Deuxième série. Revenu présumé, 15000 francs. Aisance. Un filet de bœuf à cœur rose piqué et cuit dans son jus, un quartier de chevreuil sauce hachée au cornichon, un turbo naturel, un gigot de prêt salé à la provençale, des petits pois en primeur. Expression « Ah, mon ami, quelle aimable apparition! Il y a vraiment nopes et festins !» Troisième série, revenu présumé 30000 francs et plus, richesse. Une pièce de volaille de 7 livres bourrée de truffes du Périgord jusqu'à sa conversion en sphéroïde, un énorme pâté de foie gras de Strasbourg ayant forme de bastion, une grosse carpe du Rhin à Chambord richement dotée et parée, d'écailles truffées à la moelle étendues sur des toasts beurrés au basilic, un brochet de rivière piqué, farci et baigné d'une crème d'écrevisse, un faisan à son poing, piqué au toupet, gisant sur une rôtie travaillée à la Sainte Alliance, 100 asperges de 5 à 6 lignes de diamètre en primeur, 2 douzaines d'ortolans à la provençale, une pyramide de meringue à la vanille. Expression « Ah, monseigneur, que votre cuisinier est un homme admirable. On ne rencontre ces choses-là que chez vous. »
Jean-Robert Pitt, bonjour.
Bonjour.
Nous ouvrons notre conversation sur un extrait de la physiologie du goût, les éprouvettes gastronomiques. C'est un emprunt au livre de chevet de Jean-François Revel, l'un des préfaciers les plus prestigieux de la physiologie du goût. Une émission du 7 mars 1968. J'ai voulu d'emblée que la salive vienne à la bouche.
Oui, oui, c'est un texte admirable qui montre que Brillat Savarin s'intéresse à toute la société, pas seulement les gens riches et capables de, ayant les moyens de s'acheter des truffes et d'en bourrer des ortolans ou des volailles, mais aussi aux gens de faibles revenus qui peuvent se nourrir très agréablement avec de la choucroute, avec les plats qu'il décrit et qui tous font saliver. Que ce soit très luxueux et rare ou que ce soit plus commun, si c'est bien préparé et préparé avec amour et partagé, parce que Brillat Savarin est aussi un homme du partage, ce sont des plats qui procurent du plaisir. Et le plaisir est quand même un des ressorts de l'existence. C'est ce que montre Brillat Savarin dans la physiologie du goût.
Les éprouvettes, qu'est-ce à dire ?
Alors, les éprouvettes, ce sont des expériences. On l'utilise plutôt en biologie ou en chimie, mais ce sont des expériences, en l'occurrence des expériences gastronomiques. Alors, Brillat Savarin adore utiliser des mots scientifiques. Hein. Il a suivi des études de droit, mais aussi des études de médecine. Et le mot physiologie du goût, d'ailleurs, montre que, pour lui, c'est un livre qui n'est pas seulement un bréviaire des gourmands, mais aussi un livre dans lequel il donne à comprendre ce qui procure... il parle de la digestion, il parle des effets de la nourriture sur le corps, il parle beaucoup de l'obésité, la maigreur ne le tente pas beaucoup, il la critique même quand elle est trop prononcée. Il se veut savant. En réalité, c'est pas la partie la plus intéressante de la physiologie du goût, c'est vraiment la recherche du plaisir et du partage du plaisir qui est le cœur de sa philosophie.
Enraciné néanmoins dans son temps, il y a une allusion à la Sainte Alliance.
Alors la Sainte Alliance, bien sûr, un moment important de l'histoire politique de l'Europe à cette époque, après la chute de l'Empire, puisque Brillat Savarin publie à la veille de sa mort, en décembre 1825, et le livre est daté 1826, et la Sainte Alliance est encore présente dans tous les esprits, et la recette du faisan à la Sainte Alliance est une recette prodigieuse puisqu'il faut faire faisander, c'est-à-dire maturer le faisan pendant au moins une semaine jusqu'à ce qu'on le suspend par les pattes et le jus doit sortir par le bec au bout d'une semaine, donc c'est très odorant. On ne le plume qu'à ce moment-là et ensuite, donc la chair est très fragile, on le farcit, on farcit l'animal de chair de bécasse, de truffe, de foie gras, etc. C'est une merveille absolue, le faisan à la Sainte Alliance.
Je vous sens descendant de Brillat Savarin. Jean-Robert Pitt est...
Mais non, il n'a pas de descendance, sauf spirituelle.
Oui, je vous y inscris, volontiers. L'homme qui a dit « la découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile » ne peut en effet pas être entièrement mauvais. Il faut néanmoins que nous donnions, même si ce n'est pas l'essentiel, une certaine idée de ce que fut sa vie.
Oui, bien sûr.
De vous montrer, en somme, d'une certaine façon, assez banal, même s'il fut député du tiers-État.
Il est d'une bonne bourgeoisie d'Europe, de la petite ville de Belley dans l'Ain. Son père est avocat et commissaire du roi. Et lui va faire les études de droit, sera avocat aussi, va se faire élire député du tiers-État à l'occasion des États généraux, vient à Versailles, participe d'ailleurs à l'Assemblée, à la Constituante. On a ses discours, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. C'est un révolutionnaire. Enfin, il pense que l'ancien régime doit être réformé, mais c'est un révolutionnaire très modéré. Il fait partie des Girondins et il n'aime pas, parce qu'il vient d'une province qui a été rattachée tardivement à la France, et il n'aime pas que l'État s'occupe de tout. Il trouve d'ailleurs que l'État en fait beaucoup trop.
Il échappe à la guillotine en allant se réfugier un moment aux États-Unis.
Voilà, parce qu'il devient maire de Belley après, pendant un an. Et en fait, les Jacobins veulent à sa vie. Et après bien des péripéties, en tout cas, il s'échappe par la Suisse et il part pour 2 ans aux États-Unis, où là, il vit de un autre de ses talents, qui est la musique. Il est professeur de violon. Il joue d'ailleurs dans un orchestre aussi à Boston. Enfin, il vit à Boston, à Philadelphie, à New York. Et là aussi, il y a quelques expériences gastronomiques intéressantes parce qu'il va à la chasse dans les forêts des Appalaches. Mais en fait, il a perdu les notes qu'il avait prises pendant son séjour aux États-Unis, donc on ne sait pas grand-chose de son séjour. Mais quand il revient, là, il réussit à obtenir le poste qu'il convoitait, qui est un poste de conseiller à la Cour de cassation, qui va l'occuper jusqu'à la fin de ses jours en 1826.
Vous évoquez la diversité de ses curiosités, pas seulement la gourmandise, mais la musique, l'astrologie, la chimie, la science politique, même la médecine.
La médecine, oui. Oui, il suit des cours de médecine à Dijon quand il est étudiant, dans les années 1770, et il se pique d'être un peu médecin. En réalité, ça a beaucoup vieilli, ces passages-là. Il n'y a qu'une chose peut-être intéressante, quand il parle vraiment de la physiologie du goût, en croyant faire œuvre scientifique, c'est qu'il insiste sur une saveur dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque, qu'il appelle l'osmazome, et qui est la cinquième saveur, ce qu'on appelle maintenant umami, puisque les Japonais ont vraiment, au XXe siècle, découvert cette saveur, et qui provient de l'acide glutamique, donc le glutamate, mais qu'on obtient par exemple en faisant un fond de viande avec des os, ou un fumet de poisson, ou avec un fond avec des champignons séchés. Et là, on a une saveur extrêmement concentrée. C'est celle qui fait vibrer les papilles qu'on a sur le côté de la langue quand on a quelque chose de très très goûteux.
Découverte évidemment essentielle.
Essentielle.
En plus du sucré et du salé.
De l'amer et de l'acide. Et donc, il y a la cinquième saveur, qu'aujourd'hui on appelle umami, qui est bien connue et bien décrite, et dont on connaît réellement la physiologie. Mais lui a l'intuition que c'est quelque chose de très important.
Cet homme s'adapte bien aux régimes successifs, dont on sait qu'ils furent nombreux pendant cette période.
Oui.
Il n'aimait pas néanmoins beaucoup Napoléon. Il disait qu'il mangeait vite et mal.
Oui, oui, mais enfin, il le supporte très, très bien. Et d'ailleurs, il est anobli par Napoléon. Il reçoit la Légion d'honneur.
Briade de Savarin, c'était son rêve.
Oui, et sur sa tombe au Père-Lachaise, il y a écrit Briade de Savarin, mais particule qui ne s'est pas transmise puisqu'il n'a pas eu d'enfant.
Mais sa gloire est peut-être plus portée par le fait qu'il a donné son nom à la fois à un fromage et à un entremets.
Très tardivement. Hein, très tardivement, le fromage, c'est le grand fromager Androuet qui donne ce nom à un fromage qu'il invente, mais dans les années 1900. Qui est un triple crème. En fait, c'est un brie très, très riche en crème et qui s'appelle Brie à Savarin en hommage à la gourmandise du maître. Mais Brie à Savarin n'a jamais mangé de fromage de Brie à Savarin.
Il faut que nous arrêtions un instant sur la complexité du titre de son livre. Il ne s'appelle pas seulement « La physiologie du goût », mais son titre est beaucoup plus long et mérite réflexion.
Oui, alors « Physiologie du goût », déjà, c'est ce côté pseudo-savant. Parce qu'il ne se fait pas trop d'illusions, il n'est pas vraiment un savant, mais il affecte des descriptions très scientifiques. Et alors le sous-titre, c'est « Méditation de gastronomie transcendante », d'où le sous-titre que j'ai voulu donner à cette biographie, c'est « Le gastronome transcendant ».
Transcendant, cela veut dire quoi ?
Ça veut dire au-dessus de tout ce qu'il est possible d'imaginer et pour lequel les mots sont insuffisants. Mais pourtant, il en trouve des mots, puisque c'est un inventeur de mots.
Surmonté. Il s'agit de surmonter les propos ordinaires et les
regards
habituels.
Oui, c'est tout ce qui est augmenté. C'est la gastronomie superlative, dédiée aux gastronomes parisiens, etc. La page de titre est très longue.
Par un professeur.
Par un professeur. Alors ça, là, il se moque un peu de lui. Il dit quand le professeur parle, tout doit céder.
Il faut que nous nous arrêtions un instant, Jean-Robert Pitt, sur cette formule, sur ce vocable de la gastronomie qui est à l'époque relativement
oui.
récent. Et pour nous apporter un éclairage, je vais d'abord vous faire entendre cet extrait de Brillat Savarin, lu par Denis Podalydès. C'est un extrait des Chemins de la philosophie d'Adèle Vendrette et de Géraldine Mosna-Savoie, le 26 janvier 2021.
La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Elle y parvient en dirigeant, par des principes certains, tous ceux qui recherchent, fournissent ou préparent les choses qui peuvent se convertir en aliments. Ainsi, c'est elle, à vrai dire, qui fait mouvoir les cultivateurs, les vignerons, les pêcheurs, les chasseurs et la nombreuse famille des cuisiniers, quel que soit le titre ou la qualification sous laquelle ils déguisent leur emploi à la préparation des aliments. La gastronomie régit la vie tout entière, car les pleurs du nouveau-né appellent le sein de sa nourrice, et le mourant reçoit encore avec quelque plaisir la potion suprême qu'hélas il ne doit plus digérer. Elle s'occupe aussi de tous les états de la société, car si c'est elle qui dirige les banquets des rois rassemblés, c'est encore elle qui a calculé le nombre de minutes d'ébullition qui est nécessaire pour qu'un œuf frais soit cuit à point. Le sujet matériel de la gastronomie est tout ce qui peut être mangé, son but direct, la conservation des individus, et ses moyens d'exécution, la culture qui produit, le commerce qui échange, l'industrie qui prépare, et l'expérience qui invente les moyens de tout disposer pour le meilleur usage.
Il ajoute un peu plus tard, que pouvait-on refuser à la gastronomie qui nous soutient de la naissance au tombeau, qui accroît les délices de l'amour, on dirait un mot peut-être des liens entre l'appétit gastronomique...
La chair et la chair,
il ne s'écrit pas pareil, qui accroît les délices de l'amour et la confiance de l'amitié, qui désarme la haine, qui facilite les affaires et qui nous offre, dans le court trajet de la vie, la seule jouissance qui n'étant pas suivie de fatigue, nous délasse encore de toutes les autres. Le mot de gastronomie est récent, est accueilli récemment par l'Académie, mais néanmoins on peut trouver une racine dans l'Antiquité avec un texte perdu d'Archestrate.
Oui, alors le gastronomie est le titre d'un ouvrage culinaire d'Archestrate qui vivait au temps de Périclès, qui était d'ailleurs un ami du gendre de Périclès, peu importe, et qui a voyagé dans le bassin méditerranéen et qui a décrit les bonnes choses qu'il pouvait manger, en particulier en Sicile, et tous les poissons, tous les crustacés du détroit de Sicile sont décrits dans Archestrate. Le livre s'est perdu, mais a été on a quelques extraits dans des ouvrages beaucoup plus récents de l'époque romaine, et gastronomie, qui était le titre de ce livre, un mot grec, veut dire la législation de l'estomac, les normes de l'estomac, ce qui n'est pas très appétissant. Et ce mot, alors, tombe dans l'oubli complètement, et il est exhumé par un poète pas très très connu, qui s'appelle Berchoux, de la région lyonnaise, et qui, en 1800, c'est été réédité plusieurs fois après, 1801, 1803, etc., publie un poème de 1000 vers, qui s'appelle « La gastronomie », et qui est à la gloire de la bonne chère, du bien manger. Et le mot, donc, fait fureur, immédiatement rentre dans la langue, et Brillat Savarin s'en empare, l'utilise, même s'il ne cite pas Berchoux, d'ailleurs.
En revanche, nous verrons que Balzac fait un rapprochement entre Berchoux et Brillat Savarin.
Balzac est a lu Berchoux, mais il est surtout un immense admirateur de Brillat Savarin et du livre « La physiologie du goût ». Ils ne se sont jamais rencontrés, mais il en fait un éloge absolument dithyrambique. En tout cas, législation de l'estomac, ça fait partie de cet humour qui affectionne beaucoup Brillat Savarin, d'utiliser des mots extrêmement savants, mais pour faire sourire. C'est une pédanterie humoristique, parce qu'il n'est pas pédant du tout dans la réalité. Mais c'est quelqu'un qui, pour faire sourire, c'est comme Manceau, utilise des formulations alambiquées, un peu pseudo-savantes.
Il se veut néologue.
Néologue, il invente. C'est ce qui a beaucoup plu à Balzac, qui lui-même était un féru de néologisme.
Vous voulez que nous entendions ce que dit Balzac de Brillat Savarin? Eh bien voilà, c'est une lecture de Frédéric Cantrel, un extrait de « Bouche à oreille », l'émission de René Elkaïm Bollinger, en date du 21 octobre 2001.
Brillat n'est point un fanfaron de cuisine. Il écrit avec amour, sa parole est solennelle comme la messe d'un évêque. Dans son style, tout pétille, tout est vermeil comme la prunelle, comme le carmin des lèvres du gourmand. Qu'il disserte, qu'il compte, qu'il conclut, qu'il résume, qu'il commande, qu'il prohibe, toujours il semble officier pontificalement. Il est bien clair que son rêve, son idéal, son paradis perdu, c'est un de ces gras réfectoires de Génovais fins sur lesquels il regrette, avec plus de sincérité que Berchoux, qu'essoufflait la tourmente révolutionnaire.
Voilà Berchoux cité.
Alors, Berchoux est cité par Balzac, oui. Mais Berchoux regrettait aussi les couvents. Les Génovéfains, c'est un ordre monastique de Sainte-Geneviève. Et Brillat-Savarin, comme Berchoux, qui n'était pas des gens d'une piété exceptionnelle, mais avait fréquenté les couvents d'Ancien Régime, où l'on vivait extrêmement bien à la fin de l'Ancien Régime. Dans Brillat-Savarin, il y a une description d'une journée chez les Bernardins de Saint-Sulpice, dans le Bugey, au-dessus de Belley, avec des descriptions extraordinaires de ce qu'on sert à manger à cette petite troupe de musiciens qui monte là-haut dans l'abbaye perdue dans la montagne pour honorer la fête de Saint-Bernard, et on les nourrit absolument merveilleusement. Bien. Il y a une petite collation après, parce qu'ils y vont à pied, c'est très loin, et quand ils arrivent, ils sont affamés, et le père Sellerier leur dit « On vous a préparé un petit quelque chose à manger ». Et il dit, alors sur la table, il y avait un pâté grand comme une église. Et Brillat-Savarin est un grand amateur de pâté. On dit aujourd'hui pâté en croûte, ce qui est un pléonasme épouvantable. Il faut dire pâté ou terrine, s'il n'y a pas de pâte autour. Mais Brillat-Savarin parle beaucoup des pâtés, et il se trouve que d'ailleurs, dans sa gentilhommière de vieux en Valremais, dans l'âtre magnifique, gigantesque, qui est dans son état d'origine, il y a un petit four qui n'est pas un four à pain, qui est un four à pâté.
J'observe que si Balzac a été, à vos yeux, très lucide sur la qualité de l'œuvre de Brillat-Savarin, vous êtes plus sévère pour Baudelaire qui lui-même n'a rien compris, en fait, à la physiologie du goût. D'après vous, il écrit « Le Brillat-Savarin, espèce de brioche insipide » dont le moindre défaut est de servir de prétexte à vous dégoiser des maximes niaisement pédantesques tirées de fameux chefs-d'œuvre.
À mon sentiment, Baudelaire a lu très très rapidement, et puis il a dû s'arrêter aux maximes qui sont au début de la physiologie du goût. Il dit par exemple que Brillat-Savarin n'a rien compris au vin, et qu'il ne parle pas du vin, juste une phrase, ce qui est faux, parce que toute la physiologie du goût, il y a beaucoup beaucoup de passages qui concernent le vin. Brillat-Savarin est un inventeur, et Baudelaire est d'une méchanceté insigne vis-à-vis de Brillat-Savarin.
Alors que au long des décennies et des deux siècles qu'on suivit, il a recueilli beaucoup d'admiration. Si on prend la liste des préfaciers de la physiologie du goût, réédité d'âge en âge, assez brillant.
Dont Jean-François Revel, dont Roland Barthes, par exemple, qui sont les deux préfaciers les plus importants, et qui ont, chacun à sa façon, hein, mais qui ont découvert toute la substantifique moelle de ce livre extraordinaire. Il faut le dire quand même, qui est un livre totalement désordonné, ce qui est bien parce qu'on peut le lire, on peut l'ouvrir au milieu, on peut l'ouvrir à la fin, on peut l'ouvrir au début, et on tombe toujours sur des pépites.
Roland Barthes écrivait « Le livre de Brillat-Savarin est de bout en bout le livre du proprement humain, car c'est de désir et ce qu'il se parle, ça c'est du Barthes, qui distingue l'homme. »
Oui, la physiologie du goût est un hymne au désir, oui, mais au désir qu'on essaye de satisfaire. Brillat-Savarin est un homme heureux et joyeux, et donc il donne plein de clés, plein de recettes, si je puis dire, pour prendre du plaisir à table.
Les quatre conditions que pose Brillat-Savarin pour une gastronomie, pour un repas vraiment réussi, c'est d'abord une chère au moins passable, dit-il, de très bons vins, des convives aimables et un temps suffisant. C'est très important, ouais. La notion de rythme du repas.
Brillat-Savarin a considéré qu'on ne perdait pas son temps à table. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui encore, ce sont les Français qui, dans le monde entier, passent le plus de temps à table. Nous passons 2h10, je crois, par jour à table en moyenne, mais certains beaucoup plus, alors que, par exemple, les Anglais passent une heure un quart, je crois.
Comme c'est triste.
Mais oui.
Ça explique le Brexit, peut-être.
Mais en tout cas, mais c'est pareil. L'Allemagne, les Allemands passent pas beaucoup de temps à table non plus. En revanche, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Latins, de tradition catholique, considèrent que ça n'est pas du temps perdu, à condition qu'on ne s'empiffre pas. Il s'agit de profiter des plats et de pouvoir en parler, donc ça prend du temps.
Chez Brillat-Savarin, il y a toute une réflexion sur l'appétit. Et voici ce qu'il en dit. C'est un extrait de l'émission de Roger Vrigny du 14 juillet 1977. Roger Vrigny qui fut jadis une grande figure de France Culture.
Le mouvement et la vie occasionnent dans le corps vivant une déperdition continuelle de substances. Et le corps humain, cette machine si compliquée, serait bientôt hors de service si la Providence n'y avait placé un ressort qui l'avertit du moment où ses forces ne sont plus en équilibre avec ses besoins. Ce moniteur est l'appétit. On entend par ce mot la première impression du besoin de manger.
L'appétit s'annonce par un peu de langueur dans l'estomac et une légère sensation de fatigue. En même temps, l'âme s'occupe d'objets analogues à ses besoins. La mémoire se rappelle les choses qui ont flatté le goût. L'imagination croit les voir. Il y a là quelque chose qui tient du rêve. Cet état n'est pas sans charme. Et nous avons entendu des milliers d'adeptes s'écrier dans la joie de leur cœur « Quel plaisir d'avoir un bon appétit quand on a la certitude de faire bientôt un excellent repas !» Cependant, l'appareil nutritif s'émeut tout entier. L'estomac devient sensible, les sucs gastriques s'exaltent, la bouche se remplit de suc et toutes les puissances digestives sont sous les armes comme des soldats qui n'attendent plus que le commandement pour agir. Encore quelques moments, on aura des mouvements spasmodiques, on bâillera, on souffrira, on aura faim. On peut observer toutes les nuances de ces divers états dans tout salon où le dîner se fait attendre. Elles sont tellement dans la nature que la politesse la plus exquise ne peut pas en déguiser les symptômes, d'où j'ai dégagé cet apophtegme. De toutes les qualités du cuisinier, la plus indispensable est l'exactitude.
L'exactitude, Jean-Robert Pitt, quand le dîner se fait attendre,
c'est
aussi un élément de la réflexion sur la manière dont, dans le temps, il doit s'organiser.
Oui, enfin, il n'est pas bon d'attendre trop longtemps. Lorsqu'on a faim, il faut manger. Et les vrais gourmets mangent en général à heure fixe. Il n'est pas bon de, même si on mange plus tard en Italie, en Espagne qu'en France, mais d'avoir des horaires fixes, je crois, est très bon pour la santé. Et d'avoir trop faim quand on se met à table oblige à manger souvent trop vite, à ne pas faire attention à ce que l'on mange, parce que l'appétit, comme Brière Savarin l'explique très bien, a besoin d'être comblé. Donc la régularité, l'exactitude, c'est fondamental dans la gastronomie, comme d'ailleurs dans la vie, hein, dans l'enseignement, dans le théâtre, c'est très important.
Autre question temporelle, comment présente-t-on les plats ? À l'époque, il y a un débat entre les tenants du repas à la française et du repas à la russe, qui de fait est introduit dans les habitudes par un très intéressant personnage, qui est l'ambassadeur de Russie sous Napoléon à Paris.
Oui, alors c'est le prince Kourakine qui est ambassadeur à Paris, et le prince Kourakine subit de graves blessures au cours d'un incendie.
Il est brûlé.
Il est brûlé et il a perdu sa mobilité et donc il ne peut plus tendre le bras pour se servir dans les différents plats qui apparaissent sur la table dans le cadre du service dit à la française, qui est le service qui est encore en usage chez les grands, en particulier Antonin Carême, qui est le cuisinier de Talleyrand et d'un certain nombre de puissants de ce monde, tient beaucoup au service à la française, c'est-à-dire avec une grande quantité de plats magnifiques et très bien présentés, que l'on met ensemble sur la table, parfois trois fois de suite au cours du repas, en plusieurs services.
C'est la pratique chinoise aussi, non ?
C'est la pratique pratiquement dans le monde entier, hein, absolument dans le monde entier, même en Russie encore aujourd'hui, ou dans le Caucase, on met beaucoup de plats sur la table, la nappe doit disparaître sous la quantité de plats, ou c'est le service turc, persan, arabe, dans le monde entier.
Donc, repas à la russe qui en fait...
Alors le repas à la russe consiste à servir les plats les uns après les autres.
Et vous nous dites que c'est actuellement différent en Russie, donc...
Oui, parce qu'en fait on l'a appelé à la russe à cause de l'ambassadeur Kourakine, du prince Kourakine, mais on a continué en Russie à pratiquer le service qui est universel. Et ce qui est intéressant dans le service donc à la russe, qui commence à entrer dans les mœurs à cette époque, c'est que on peut changer de vin avec chaque plat. Auparavant, comme il y a du salé, du sucré, des poissons, de la viande sur la table, on mange ce que l'on veut, on picore dans les différents plats, et en fait, on ne boit qu'un vin, qui est un vin en général relativement simple, qui n'a pas vieilli, et que l'on mélange avec de l'eau et de la glace. À partir de ce moment-là, et c'est une des grandes originalités de Brière Savarin, on commence à imaginer de servir tel vin avec tel plat.
Attardons-nous un instant sur ce point qui est fondamental, Jean-Robert Pitt, effectivement, quand on réfléchit à l'héritage splendide de Brière Savarin comme nous le faisons ce matin.
Oui, je pense que c'est l'inventeur réellement, le codificateur des alliances entre les mets et les vins, qui est une des grandes spécialités aujourd'hui des grands cuisiniers français et d'un certain nombre de pays du monde, et des grands sommeliers. Ah, vous avez choisi tel plat, alors je vous conseillerais tel vin.
Des exemples du temps de Brière Savarin.
Brière Savarin recommande, par exemple, avec une poularde rôtie du Pauillac, avec le fameux faisan à la Sainte Alliance qu'on a évoqué, recommande les grands crus de la Côte de Nuit, hein, Gevrey-Chambertin, par exemple, un Chambertin de préférence, c'est-à-dire un grand cru. Il recommande le Madère avec le consommé au parmesan. Il recommande avec les huîtres du vin blanc sec. Donc il y a un certain nombre de recommandations, de préconisations de Brière Savarin qui sont tout à fait intéressantes et qui sont encore d'actualité aujourd'hui.
Et quand on l'interroge sur sa préférence entre vin de Bordeaux et vin de Bourgogne en particulier, il prend à dessein ses distances. Et il imagine une scène où il se met lui-même au premier rang et il écrit « Monsieur le conseiller disait un jour d'un bout d'une table à l'autre une vieille marquise du faubourg Saint-Germain, lequel préférez-vous, du Bourgogne ou du Bordeaux ?»« Madame, répondit d'une voix druidique, le magistrat ainsi interrogé, c'est un procès dont j'ai tant de plaisir à visiter les pièces que j'ajourne toujours à huitaine la prononciation de l'arrêt. »
Merveilleuse anecdote, probablement authentique.
L'humour de notre homme, vous y insistez beaucoup.
Oui, c'est un homme qui prend la vie du bon côté, mais il a eu que des malheurs dans sa vie, et en particulier pendant la Révolution, mais... Tout est prétexte pour lui à joie de vivre, à trouver du plaisir et à partager. Parce qu'il a écrit un certain nombre d'autres textes très austères, en particulier sur le duel, sur la cour de cassation, mais qui sont pas des textes majeurs. Et à la fin de sa vie, donc dans les deux dernières années de sa vie, à partir de 1823, il écrit ses mémoires gastronomiques, c'est-à-dire ce fameux livre « La physiologie du goût » à la demande de ses amis. Ce sont ses amis qui le supplient. « On a passé de si beaux moments avec toi, tu nous as donné tant de plaisir, tu nous as fait tellement rire qu'il faut que tu écrives ça. » Et il écrit « La physiologie du goût ».
Écoutez cet extrait de « La physiologie du goût ». Dans l'émission, toujours Jean-François Revel, le livre de chevet, 7 mars 1968.
Tout le monde sait que Madame R a occupé pendant 20 ans sans contradiction le trône de la beauté à Paris. On sait aussi qu'elle est extrêmement charitable et qu'à une certaine époque, elle prenait un intérêt dans la plupart des entreprises qui avaient pour but de soulager la misère, quelquefois plus poignante dans la capitale que partout ailleurs. Ayant à conférer à ce sujet avec Monsieur le curé de... Elle se rendit chez lui vers les 5 heures de l'après-midi et fut fort étonnée de le trouver déjà à table. Un vin vieux étincelait dans un flacon de cristal, la porcelaine blanche était de premier choix, les plats tenus chauds par l'eau bouillante, et une bonne, à la fois canonique et bien mise, était là, prête à recevoir les ordres. Le repas était limitrophe entre la frugalité et la recherche. Un potage au coulis d'écrevisses venait d'être enlevé, et on voyait sur la table une truite saumonée, une omelette et une salade. « Mon dîner vous apprend ce que vous ne savez peut-être pas, » dit le pasteur en souriant. « C'est aujourd'hui jour maigre, suivant les lois de l'Église. » Notre ami s'inclina en signe d'assentiment, mais des mémoires particuliers assurent qu'elle rougit un peu, ce qui n'empêcha pas le curé de manger. Il attaqua l'omelette, qui était ronde, ventrue et cuite à point. Au premier coup de la cuillère, la panse laissa échapper un jus lié qui flattait à la fois la vue et l'odorat. Le plat en paraissait plein, et la chère Juliette avouait que l'eau lui en était venue à la bouche. Ce mouvement sympathique n'échappa pas au curé, accoutumé à surveiller les passions des hommes. « C'est une omelette au thon, » dit-il. « Ma cuisinière les entend à merveille, et peu de gens y goûtent sans m'en faire compliment. »« Je n'en suis pas étonné, » répondit l'habitante de la Chaussée-d'Antin, « et jamais omelette si appétissante ne parut sur nos tables mondaines. »
Deux réflexions viennent, Jean-Aubert Pitt, à écouter cet extrait. D'abord, la conviction qu'il vous faut un jour faire un livre sur les relations entre l'Église et la gastronomie, ce sera très attendu. Et d'autre part, la différence entre ce qui se passe en France et dans d'autres nations où il est malvenu de commenter ce qu'on est en train de déguster ou de manger.
Oui, si vous êtes invité par le roi d'Angleterre, qui pourtant est très gourmand, vous ne pouvez pas commenter les mets qu'on vous sert ou les vins merveilleux que l'on vous sert. Vous pouvez lever le sourcil légèrement. Et quand vous êtes invité dans les grands châteaux bordelais par les vrais propriétaires de la classe des Chartrons...
Influence britannique,
vous ne devez pas commenter les vins. Vous pouvez murmurer à l'oreille de votre voisin ou de votre voisine que c'est merveilleux, mais il n'est pas de bon ton de commenter. Alors que dans la tradition française plutôt catholique, c'est au contraire très, très, très bien vu. En Bourgogne, par exemple, on commente volontiers les vins à haute voix. Et Brillat-Savarin adorait commenter tous les plats à haute voix. C'est bien pour ça qu'il écrit La physiologie du goût. C'est pour rendre compte de toutes les émotions qu'il a vécues et partagées au cours des milliers de repas de son existence.
Oui, vous avez calculé, Jean-Robert Pitt, qu'il aurait consommé, je parle de Brillat-Savarin, 76 650 repas. Oui. Je ne sais pas comment vous arrivez à ce chiffre, qui est un talent mathématique de votre part absolument admirable.
Mais non, mais 70 ans, 3 repas par jour, pendant 365 jours par an, plus les haltes de chasse, parce que comme Brillat-Savarin, lorsqu'il était chez lui dans le Bugey, aimait beaucoup chasser, un de ses plaisirs, il en parle à plusieurs reprises dans la physiologie du goût, c'est la halte de chasse, qui est une invention de la fin de l'Ancien Régime. Vous savez, les deux tableaux commandés par Louis XV, le Lancret et le Jean-François de Troyes, qui sont le déjeuner d'huître et le déjeuner de jambon est une halte de chasse.
Avec du champagne.
Et ce sont deux tableaux à la gloire du champagne, puisque Louis XV était un grand amoureux du champagne. Et Brillat-Savarin parle beaucoup du champagne, qu'il aime aussi frapper, et en particulier dans les haltes de chasse.
Alors l'Église ?
L'Église catholique a toujours eu, depuis très longtemps, une certaine tendresse pour le péché de gourmandise, qui, comme vous le savez, est un des 7 péchés capitaux, mais qui est...
Je ne l'ignore pas.
Pratiquement jamais... Un péché mortel. Vous savez, il y a cette distinction chez les catholiques du péché véniel et du péché mortel. Le péché mortel, c'est celui qui prive de la grâce divine. Et pour se priver de la grâce divine en mangeant vraiment un peu trop, il faut le faire en disant « je fais ça parce que je veux faire de la peine à Dieu ». Or, personne ne fait ça. Donc, c'est un péché, certes, de trop manger, de trop boire, mais c'est un péché qui reste, même s'il est capital, qui reste véniel.
Avec souvent des représentations de personnages marqués par un certain embonpoint. À propos d'embonpoint, d'ailleurs, Brillat-Savarin refuse en fait la bière, il ne l'aime pas. Il dit que les peuples qui en boivent habituellement sont aussi ceux où on trouve les ventres les plus merveilleux.
Oui, alors effectivement, on voit bien dans certaines régions d'Allemagne, en Bavière par exemple, que l'excès de consommation de bière donne un embonpoint très, très marqué. Cela dit, Brillat-Savarin n'était pas un maigre. Il se décrit lui-même d'ailleurs à plusieurs reprises, et on voit bien qu'il est un peu enveloppé. Il n'est pas totalement obèse, il est ce qu'on dirait aujourd'hui en surpoids.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Jean-Robert Pitt, Brillat-Savarin, la façon dont il apprécie le vin ne cesse pas de vous intéresser. C'est intéressant la manière dont il explique comment on doit boire le vin. Je pense que c'est une information qui rejoint l'habitude de beaucoup de spécialistes de l'œnologie contemporaine. Il écrit « quand on boit, tant que le vin est dans la bouche, on est agréablement, mais non parfaitement, impressionné. Ce n'est qu'au moment où l'on cesse d'avaler qu'on peut véritablement goûter, apprécier et découvrir le parfum particulier à chaque espèce. Et il faut un petit intervalle de temps pour que le gourmet puisse dire « il est bon, passable ou mauvais, peste, c'est du Chambertin, oh mon Dieu, c'est du Suresnes », quand il y avait encore des vins dans la région parisienne. Cette idée que l'on trouve aussi dans le repas ridicule de Boileau sur ce vin qui n'avait qu'un goût fade et qu'un déboire affreux. Le déboire est important.
Ce qui est important dans cette citation, c'est que Brillat-Savarin montre que le vin n'est pas fait uniquement pour être siroté, dégusté, même s'il dit à un moment, quand le vin est très grand, il ne faut pas l'avaler d'un coup, il faut le boire à petite lampée. Mais ce qui est important, c'est de l'avaler. Un des grands œnologues qui est décédé, malheureusement, il y a quelques années, Jacques Puiset disait « le vin n'est pas fait, et pourtant lui, c'était un grand dégustateur, n'est pas fait pour être dégusté, il est fait pour être bu ». Et c'est vrai que, bien sûr qu'il faut le faire tourner dans sa bouche, le faire passer sur toutes les papilles, il faut le humer d'abord, bien entendu, parce qu'il y a tous les sens, les cinq sens doivent être en éveil avec le bon vin. Mais un des moments importants de la manière de boire le vin, c'est le moment où on l'avale. Parce que là, il y a d'autres sensations qui apparaissent et il y a la minute ou les deux minutes qui suivent et qui sont extraordinaires. Je peux vous raconter une expérience que j'ai eu l'occasion de boire à quelques reprises dans ma vie, les vins du domaine de la Romanée-Conti.
Quel disciple vous faites de Brillat Savarin, Jean-Robert Puce?
Et un jour, j'ai eu l'occasion de boire un très vieux millésime de ce vin prodigieux de la Romanée-Conti, et avec des émotions extraordinaires. Et le lendemain matin, au réveil, de manière très très fugitive, j'ai eu le goût de ce vin qui m'est revenu en bouche, plusieurs heures plus tard. Et ça, c'est une émotion que je n'oublierai jamais.
Jean-Robert Pitt, un autre texte fameux de la physiologie du goût de votre Brillat Savarin, extrait du livre de chevet, encore une fois, de Jean-François Revel, le 7 mars 1968, sous le titre « Le piège ». Vous allez voir de quel piège il s'agit.
Le chevalier de Langeac avait sa place marquée aux meilleures tables de la ville, mais celle où il se plaisait spécialement était celle de M. A, banquier fort riche et amateur distingué. Vers la fin de l'hiver de 1780, le chevalier de Langeac reçut un billet par lequel M. A l'invitait à souper à 10 jours de là. Il se rendit au jour et à l'heure fixe et trouva les convives rassemblés au nombre de 10, tous amis de la joie et de la bonne chère. Le mot « gastronome » n'avait pas encore été tiré du grec, ou du moins n'était pas usuel comme aujourd'hui. Bientôt, un repas substantiel leur fut servi. On y voyait entre autres un énorme aloyau dans son jus, une fricassée de poulet bien garnie, une tranche de veau de la plus belle apparence et une très belle carpe farcie. Tout cela était beau et bon, mais ne répondait pas aux yeux du chevalier à l'espoir qu'il avait conçu d'après une invitation ultra décadère. Une autre singularité le frappait, les convives, tous gens de bon appétit, ou ne mangeaient pas, ou ne mangeaient que du bout des lèvres. L'un avait la migraine, l'autre se sentait un frisson, un troisième avait dîné tard, ainsi des autres. Le chevalier s'étonnait du hasard qui avait accumulé sur cette soirée des dispositions aussi anticonviviales, et se croyant chargé de représenter tous ces invalides, attaquait hardiment, tranchait avec précision, et mettait en action un grand pouvoir d'intussusception. Le second service ne fut pas assis sur des bases moins solides. Un énorme dindon de crémieux faisait face à un très beau brochet au bleu, le tout flanqué de 6 entremets obligés, salades non comprises, parmi lesquels se distinguait un ample macaroni au parmesan. À cette apparition, le chevalier sentit se ranimer sa valeur expirante, tandis que les autres avaient l'air de rendre les derniers soupirs. Exaltés par le changement de vin, ils triomphaient de leur impuissance et toastaient leur santé des nombreuses rasades dont il arrosait un tronçon considérable de brochet qui avait suivi l'entrecuisse du dindon. Au lieu de servir le dessert, les domestiques enlevèrent tout ce qui couvrait la table, argenterie et linge, et y posèrent 4 entrées nouvelles dont le fumet s'éleva jusqu'aux cieux. C'étaient des riz de veau au coulis d'écrevisse, un brochet piqué et farci, et des ailes de bartavel à la purée de champignons. Le chevalier fut atterré à la vue de tant de bonnes choses qu'il ne pouvait plus fêter et commença à soupçonner qu'on avait eu de méchantes intentions. Par un effet contraire, tous les autres convives se sentirent ranimés. L'appétit revint, les migraines disparurent, un écartement ironique semblait agrandir leur bouche, et ce fut leur tour de boire à la santé du chevalier dont les pouvoirs étaient finis. Il faisait cependant bonne contenance et semblait vouloir faire tête à leur âge, mais à la troisième bouchée, la nature se révolta et son estomac menaça de le trahir. Il réfléchit qu'en pareil cas, la prudence n'est pas lâcheté, qu'une mort par indigestion prête toujours au ridicule et que l'avenir lui gardait sans doute bien des compensations pour ce désappointement. Il prit donc son parti et jetant sa serviette, « Monsieur, dit-il au financier, on n'expose pas ainsi ses amis. » Il y a perfidie de votre part et je ne vous verrai de ma vie. Il dit et disparut.
Alors, avant toute chose, il faut que vous nous éclairiez sur le sens, Jean-Robert Pitt, du mot intussusception, à moins que vous préfériez que je vous donne directement la,
oui,
la
s'il
définition.
Vous plaît, parce que je crois que lui
définition
l'utilise de manière faussement savante.
Le Larousse nous dit, vous allez voir, que c'est un mode d'accroissement des cellules vivantes par assimilation de nouveaux éléments dans la masse et qui oppose celles-ci aux cristaux qui croissent par superposition. Ça a l'air d'une blague pour le Liban.
Oui, c'est pas du tout dans ce sens-là que Brillat-Savarin l'utilise. C'est tout simplement les gens qui mangent. Mais Brillat-Savarin est un inventeur extraordinaire de mots. C'est ce qui a beaucoup plu à Balzac. Hein.
D'autres exemples.
Je voudrais vous donner par exemple, commessation, confabulé, digestionnaire, enthousiastique, équité, esculent, funéral, garrulité, gastéria, génésique, gustuel, gutturation, imbucation, incubitation, infocation, irorateur, magister, opim, c'est un adjectif magnifique ça, papillier, petit fournier, potophore, syndigéré, soporeux, soupatoire, spication, truffivore, voilà qui est important.
Ah, truffivore, il faut absolument que nous parlions de la truffe, car elle a une place majeure dans la physiologie du goût de Brillat-Savarin, dont nous parlons ce matin.
Alors, Brillat-Savarin est un grand amateur de truffes. Il faut dire qu'à cette époque, on en trouve beaucoup plus qu'aujourd'hui en France. Dans le Bugey, il y a des truffes, et qui ne sont pas des truffes d'été, comme on trouve aujourd'hui en Bourgogne, qui n'ont pas énormément de parfum, qui sont des truffes Tuber melanosporum, la truffe noire, qu'on trouve aujourd'hui seulement dans le Vaucluse, dans la Drôme et le Vaucluse, ou dans le Périgord, et en petite quantité et très très cher. Lui, et ça durera jusque vers 1900, Escoffier dit encore que pour faire un dindon truffé à Noël, il faut 800 grammes de truffes. Bon, au compte tenu du prix de la truffe aujourd'hui, évidemment, on n'utilise plus ça. Mais Brillat-Savarin est un fou de truffes parce que la truffe exalte toutes ses sensations. Et en particulier, évidemment, il estime qu'elle est très aphrodisiaque. Ce qui a de l'importance pour lui parce que
Il est célibataire,
mais il a une vie assez, assez bien remplie.
Vous l'avez suivi à la piste?
J'ai essayé. C'est compliqué parce qu'il est, on voit que ces choses-là, la chair, C-H-A-I-R, l'intéresse autant que la bonne chair, et ça communique. Chez lui, c'est le sens génésique, c'est lui qui utilise cette expression, le sens génésique va avec la gourmandise, ça va ensemble, qui considère que partager la bonne chair développe les sentiments amoureux. Et il développe beaucoup cela dans la physiologie du goût.
Alors ce piège, d'autre part, comment l'interpréter? Ce piège qu'on a tendu à Lyon, à ce malheureux gentilhomme.
Oui, c'est une des formes d'humour de Brillat-Savarin, qui aime beaucoup faire des blagues de ce genre. Là, donc, il est très très heureux de raconter cette histoire. Il n'a peut-être pas participé à l'événement, mais on lui a décrit la scène où ce pauvre gentilhomme que l'on veut vexer n'a plus d'appétit au moment où on commence à apporter les grands plats.
Le vexer, on y parvient assez bien.
On y parvient assez bien, parce qu'il claque la porte et il s'en va. Et les convives qui restent là n'en sont pas autrement fâchés et profitent des mets merveilleux qui ont été préparés dans le troisième service.
Nous n'épuiserons pas, Jean-Robert Pitt, la liste prodigieuse des différents aliments dont Brillat-Savarin nourrit sa cuisine, mais il faut que nous disions un mot du gibier, en particulier du petit gibier. Je pense aux petits oiseaux, le bec-fig, que l'on ne peut plus consommer aujourd'hui, est au centre de ses appétits. Il écrit à ce propos, la méthode est empruntée au chanoine Charcot, église et gastronomie, un lointain parent de Bellet. Prenez par le bec un petit oiseau bien gras, saupoudrez-le d'un peu de sel, ôtez-en le gésier, enfoncez-le adroitement dans votre bouche, mordez et tranchez tout près de vos doigts et mâchez vivement. Il en résultera un suc assez abondant pour envelopper tout l'organe, et vous goûterez un plaisir inconnu du vulgaire. Fin de citation.
C'est absolument merveilleux. Brillat-Savarin était extrêmement amateur de petits oiseaux, ce qui est aujourd'hui interdit, hein, à part les cailles, mais qui sont d'élevage. Mais il y avait des cailles sauvages à l'époque. Il cite énormément, à bien des reprises dans la physiologie du goût, des repas magnifiques qu'il a fait avec des petits oiseaux rôtis à la broche, pas au four. Il y avait déjà des fours à l'époque, mais c'est la broche qui donne les meilleurs résultats. Mais c'est très difficile à manier, la broche. Et ces petits oiseaux, donc, ce sont bien sûr les becs-figues qui sont les meilleurs, mais ce sont les ortolans, ce sont les grives, ce sont les merles. Tous les passereaux sont absolument délicieux. Alors évidemment, les meilleurs sont ceux de l'automne, parce qu'ils se gavent de raisins, ils se gavent de toutes sortes de fruits, et leur goût est absolument merveilleux. Il aime aussi les oiseaux un petit peu plus gros que ces petits passereaux que je viens d'évoquer, et il revient à bien des reprises sur la bécasse, qui est, comme vous le savez, le gibier le plus succulent qui puisse exister, en particulier s'il est un tout petit peu faisandé.
Un mot aussi des huîtres qui étaient déjà consommées par les Romains. On en trouve trace dans les fouilles, en particulier de la région de Bordeaux. Et les huîtres qui ont une grande importance dans la gastronomie de Briat-Savarin.
Alors, pas dans la gastronomie du Bugey, puisque là où il passe son enfance et toutes ses vacances, puisque les huîtres n'arrivent pas, c'est très loin de la mer, mais à Paris, où l'on a tous les produits de la mer qui arrivent de Normandie, de Dieppe,
dans de la glace, comment est-ce qu'on fait ?
Même pas. Alors, de toute façon, on les mange pendant les mois en air, où il fait frais. On ne peut manger les huîtres en été que si on est juste au bord de la mer et qu'on sort les huîtres de l'eau, à Arcachon ou en Bretagne. Mais sinon, à Paris et dans les contrées un peu éloignées de la mer, on mange les huîtres dans les mois en air. On les pose pas sur la glace à l'époque. La glace est réservée pour la boisson. C'est quand même un produit rare et cher. Donc les huîtres se mangent fraîches et elles se dégustent à foison.
Des quantités incroyables à nos yeux.
Plusieurs douzaines par personne, ça n'est pas rare du tout. Et on considère que ça ne comble pas la faim. Donc c'est juste pour le plaisir de ce côté salin et marin de l'huître et iodé. Et on boit du vin blanc sec avec ou du champagne à foison.
Une autre des passions de Briat-Savarin, ce sont les écrevisses. Il y a d'ailleurs à Belley une statue qui est un hommage à l'enfant du pays, c'est-à-dire Briat-Savarin.
Oui, c'est une statue du XXe siècle, des années 1930, je crois. Pas extrêmement expressive, enfin, il est plutôt renfrogné, c'est un bronze, mais le bronze repose sur un monument en pierre. Et quand on se retourne, c'est dans la rue principale, dans la grande rue de Belley, et quand on voit derrière ce monument, il y a sculpté dans la pierre une marmite avec des quantités d'écrevisses qui sont en train de se carapater et qui évoquent l'amour débordant que Briat-Savarin avait pour les écrevisses qui abondaient dans les ruisseaux, en particulier dans le Furan, qui est le ruisseau de Vieux-en-Valromais, et où il y avait des écrevisses partout, et il donne beaucoup de recettes d'écrevisses, enfin, où il évoque beaucoup de plats d'écrevisses qui sont une merveille. Il ne faut pas oublier que le grand plat du département de l'Ain et du Bugey, c'est le gâteau de foie blond de poularde de Bresse avec la sauce nantois. Nantois est une ville qui est au nord du Bugey et qui est la sauce aux écrevisses, c'est-à-dire avec la sauce qui est faite avec les carapaces d'écrevisses concassées et les queues d'écrevisses qui sont ensuite mises à l'intérieur. Et bien entendu, beaucoup de crème. La crème de Bresse est une des merveilles de la région.
Donc cet hommage à l'enfant du pays est fort bienvenu à vos yeux.
Oui, bien sûr. C'est le sculpteur qui n'est pas un grand sculpteur, a voulu rendre un hommage gourmand au maître des lieux et par cette marmite avec des écrevisses qui essayent d'en sortir.
Hélas, nous approchons de la fin de l'émission. Heureusement, nous approchons du prochain repas, Jean-Robert Pitt.
Oui.
Comment conclure sur la postérité de Briat-Savarin? Dès 1849, je vois qu'un de ses premiers préfaciers, Alphonse Carr, disait « La lecture de Briat-Savarin m'a rendu honteux de n'être pas gourmand ». Je ne sais pas si cette honte va se répandre à l'écoute de l'émission.
Oh ben, en tout cas, je considère que lorsqu'on est français, qu'on est héritier de ce patrimoine extraordinaire, ce patrimoine gastronomique qui a été reconnu comme un élément du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2010, vous l'avez rappelé, je considère qu'il est vraiment dommage de ne pas être gourmet ou gourmand, peu importe, dans notre pays, parce que c'est se priver d'une des joies de l'existence. Nous vivons dans une vallée de larmes et il y a des oasis, et ces oasis, ça s'appelle le repas, tout simplement. Le dîner, comme on disait à l'époque, qui est le déjeuner maintenant, ou le souper, sont des moments essentiels de la vie, de la convivialité. Et je pense que Briat-Savarin, bien que célibataire, a très très rarement mangé seul.
D'où votre satisfaction, Jean-Robert Pitt, lorsqu'on a porté, je le disais tout à l'heure, le repas gastronomique français à la hauteur d'un patrimoine culturel de l'humanité à l'UNESCO. Vous y avez d'ailleurs contribué avec Francis Chevrier, racontez-nous ça.
Oui, alors, donc, lorsque la France a signé la convention UNESCO sur le patrimoine immatériel en 2006, nous nous sommes dit avec un certain nombre d'amis chercheurs en histoire, en sciences humaines en général, en géographie bien sûr, mais il faut que nous fassions reconnaître par l'UNESCO la gastronomie française, qui est un élément de notre culture, de notre savoir-vivre ensemble, dans ce pays qui est traversé par tellement de divisions politiques, culturelles, religieuses, etc., les Français se retrouvent et communient ensemble dans l'identité française à table.
Parmi ses amis, Francis Chevrier, donc, qui est directeur de l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation à Tours.
Voilà, c'est cela. Et avec Francis et quelques autres amis, nous avons monté un dossier et on a eu beaucoup de mal à le faire reconnaître par l'UNESCO, parce que l'UNESCO disait « Mais non, mais les Français, vous voulez ça pour vendre votre foie gras, pour vendre votre champagne, la gastronomie n'est pas de la culture. » Et on a eu beaucoup de mal. On a été d'ailleurs soutenu à l'époque par le président de la République, qui pourtant n'a pas la réputation d'être un grand gastronome.
C'était... Jack Lang, en son temps, avait déjà manifesté qu'il voyait dans la gastronomie un des éléments fondamentaux de la culture.
Lorsque Jack Lang était ministre de la Culture, il a fait réaliser un rapport sur la gastronomie par Jean Ferniaud, qui est un rapport remarquable et qui est la base, d'ailleurs, qui a été la base de notre réflexion dans les années 2007-2010 pour faire reconnaître par l'UNESCO le repas gastronomique des Français.
Oui, Ferniaud était du pièce rapportée des Servan Schreiber, et c'est lui aussi qui avait inventé Monsieur X, Gaston Defer, en 1965.
Ah d'accord.
Oui, un esprit très très ouvert et notamment effectivement critique gastronomique très très écoutée.
Et Jacques Lang a aussi fait réaliser une œuvre extraordinaire qui est l'inventaire du patrimoine gastronomique de la France, qui est publié encore et disponible aujourd'hui par le Centre national des arts culinaires, rattaché au ministère de la Culture, et qui est publié chez Albin Michel. Il y a une trentaine de volumes. Toutes les régions de France sont couvertes, et c'est un travail qui a été coordonné par deux chercheurs américains, Mary et Philip Hyman, qui vivent toujours en France et qui ont fait un travail extraordinaire à la gloire du patrimoine gastronomique français.
Un grand merci Jean-Robert Pitt pour ce parcours gastronomique dont je vous sais gré. Votre livre s'appelle Brillat Savarin, le gastronome transcendant. Vous avez expliqué le sens de ce mot, qui vient de paraître chez Talendier. Un livre qui est préfacé par Éric Orsena, qui ajoute évidemment du lustre à l'ouvrage. Si c'était nécessaire, ça ne l'est pas. Vous avez publié tout récemment un ouvrage qui s'appelle « Beauté de la géographie ». C'est un recueil d'interventions à l'Institut, je crois.
Oui, c'est ça. Ce sont les discours que j'ai infligés à mes confrères sur la géographie pendant les 6 années de mon perpétuat.
C'est une publication des presses universitaires de France, toute récente. Et puis, vous avez donné également en 2023 un atlas gastronomique de la France. Charmant Collin, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un inventaire de toutes les spécialités gastronomiques, les produits bruts, mais aussi les recettes de toutes les régions françaises, qui est donc constituée de très nombreuses cartes.
Et puis dites-nous un mot de votre roman, vous êtes fait aussi récemment romancier, Jean-Robert Pitt, Dardanus, qui est paru chez Calmant Lévy en 2021. C'est un personnage de l'Antiquité.
Oui, c'est un personnage du Bas-Empire, un personnage réel qui était un païen qui s'est converti au christianisme à la fin de sa vie et qui s'est retiré à la fin de sa vie dans les montagnes des Alpes du Sud. Et la principale trace que l'on ait de lui, c'est une magnifique gravure dans la pierre, dans le calcaire urgonien dans la région de Sisteron, qui s'appelle Pierre écrite, et où il raconte en une trentaine de lignes, il raconte sa vie, son expérience, et il crée la cité de Dieu perchée dans les Alpes, et c'est tout à fait authentique.
Le caractère limité de cette source permet largement à l'imagination de se déployer.
Voilà, c'est pourquoi il fallait en faire un roman.
Antoine Debecq, que j'ai reçu plusieurs fois à ce micro, a publié « La France gastronome, comment le restaurant est entré dans notre histoire », paru chez Payot en 2019.
Magnifique livre.
Et nous avions fait une émission à ce propos. Et naturellement, je dois rendre hommage à une consœur et un confrère, « Les bonnes choses » de Caroline Brouet, une émission qui est offerte à nos auditeurs chaque dimanche, de midi à 12h30, juste avant le repas, oui, pour ce qui la concerne. Et puis on connaît aussi le prestige de François-Régis Gaudry, qui donne chaque dimanche sur France Inter l'émission « On va déguster ». Il a aussi offert des publications importantes.
Oui, c'est l'auteur de pas mal de livres qui sont pas des livres dans lesquels il mélange un peu comme Brillat Savarin, la cuisine, l'art de vivre, les paysages, les lieux où l'on mange bien. Enfin, c'est un journaliste qui est très très éclairé, qui est en même temps un bon historien. Il a été commissaire de l'exposition sur Paris, capitale de la gastronomie, à la Conciergerie en 2023.
Vous pourrez trouver une bibliographie complète, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et naturellement écouter, réécouter et podcaster cette émission.
Je suis le duc de gourmandise, je vous attends dans mon palais. Entrez douceurs et friandises, je suis gourmand, je suis gourmet. Je m'en vais rôder. terre en cuisine. Mon nez cherche au-dessus des plats les fumées, les odeurs divines, les sauces, j'y trempe les doigts. Rien que d'y penser, je suis ivre. Rien que d'en parler, je salive. Et je chante quand vient midi pour mieux tromper mon appétit.
Et tandis que vous écoutez en arrière-fond la chanson de Michel Bernard, une chanson de 1997 qui s'appelle « Le Duc de Gourmandise », je vous rappelle que vous venez d'entendre « Concordance des temps », une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Inès Benslama et réalisée par Vincent Abouchard, avec Raymond Albouy à la prise de son, Keating Wong à la discothèque, Emmanuel Lucioni pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et Corinne Chauvel pour la documentation.
Je mordouille, je crabouille et puis j'engloutis. C'est la fête dans ma tête, oh quel appétit. Le raisin et l'amande et le poulet rôti, qu'il est doux sur ma langue, ce parfum joli. Papillote, gipolote, ma patte la foutie. Mes papilles qui frétillent sont toutes éblouies. Papillote, gipolote, ma patte la foutie.